Christian Théin et trois responsables de la CCAT remis en liberté. Le juge a rendu sa décision cette nuit pour nous. L'UGPE réagit à la décision du tribunal administratif qui demande à la province sud de réexaminer la durée de résidence de 10 ans pour l'obtention d'une bourse scolaire. La province va se pourvoir en cassation. Dimanche, c'est la fête des pères. Des idées cadeaux dans ce journal pour ceux qui n'auraient pas encore fait leur choix. En Inde, un Boeing 787 Dreamliner s'écrase au décollage sur une zone résidentielle. Il y a au moins 290 victimes. L'Australie s'apprête à accueillir ses premiers réfugiés climatiques. 280 habitants de Tuvalu vont pouvoir y vivre et y travailler à partir de lundi prochain. Dans la page au sport, le point en cyclisme sur le critérium du Dauphiné. Vous entendrez aussi Axel Raymond, le Calédonien est de retour après son titre de champion de France de force athlétique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui sera suivi par le magazine Transparence comme tous les vendredis. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Et votre invité sera aujourd'hui Nicolas Metzdorf.
Oui, c'est le député de la première circonscription qui expédie l'invité du magazine Transparence. Nous l'interrogerons bien sûr sur la situation du dossier calédonien après qu'Emmanuel Macron ait repris l'initiative en invitant les parties prenantes à Paris. Nicolas Metzdorf reviendra également plus largement sur l'actualité calédonienne, notamment sur la remise en liberté de Christian Théin. On se retrouve en sa compagnie d'ici une demi-heure, ce sera juste après votre journal.
Et l'autre rendez-vous du vendredi, c'est bien sûr le Club Politique à 16h45.
Au sommaire ce soir, la déclaration d'Emmanuel Macron sur la Nouvelle-Calédonie et sur les référendums. Nous parlerons aussi du communiqué des membres indépendantistes du gouvernement qui se sont plaints de l'absence de leurs collègues non-indépendantistes. Et puis nous évoquerons là aussi la remise en liberté de Christian Théin. Et nous reviendrons enfin sur le débat sur les protections de marché, un Club Politique qui débute cet après-midi à 16h45.
Christian Théin a donc été remis en liberté. Le leader de la CCAT a quitté la prison de Mulhouse où il était incarcéré depuis près d'un an. Il est sorti en voiture du centre pénitentiaire, accompagné par sa compagne qui s'était installée à Mulhouse. Sa libération avait été prononcée quelques heures plus tôt par la Cour d'appel de Paris, Elisabeth.
C'était une issue prévisible après que les trois magistrats instructeurs qui enquêtent à Paris sur les violences insurrectionnelles de 2024 aient ordonné le 3 juin dernier la remise en liberté sous contrôle judiciaire de Christian Théin, quelques jours après son audition, le 27 mai. Ils estiment notamment qu'à ce stade de la procédure, il n'est pas démontré que Christian Théin ou d'autres mis en examen auraient préparé un attroupement armé ou un groupement violent. Le 3 juin, le parquet avait fait un référé détention qui avait obligé le leader de la CCAT à rester incarcéré jusqu'à l'audience de ce jeudi 12 juin. Le ministère public qui était opposé à cette libération parce qu'il soupçonne Christian Théin d'être le commanditaire d'un plan d'action violente contre l'État en trois phases, visant à déstabiliser les entreprises et commerces, les administrations et services de l'État, par la commission de nombreuses exactions contre les biens et les personnes. L'avocat général avait requis son maintien en détention provisoire parce que c'était selon elle l'unique moyen d'éviter une concertation frauduleuse et que c'était la garantie que Christian Théin réponde aux convocations des juges d'instruction. Le parquet, qui n'a donc pas été suivi par la Cour d'appel de Paris, elle a décidé de sa remise en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre en Nouvelle-Calédonie et de contacter d'autres protagonistes du dossier. Christian Théin reste mis en examen pour complicité de tentatives de meurtre et destruction en bande organisée. La Cour d'appel a également remis en liberté trois autres militants indépendantistes incarcérés en métropole. Il s'agit de Dimitri Kenegei, de Guillaume Vama et d'Erwan Oetean. Elle a aussi confirmé la libération de Steve Hounet.
La décision de la Cour d'appel de Paris de remettre en liberté Christian Théin suscite plusieurs réactions. Dans un communiqué, le député Nicolas Metzdorf rappelle que Christian Théin demeure mis en examen pour son implication présumée dans les émeutes les plus graves de l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie. Et il ajoute que sa participation à une négociation politique apparaît inenvisageable. Aussi longtemps que la procédure judiciaire est en cours, sa place est devant la justice et non à la table des discussions politiques, déclare Nicolas Metzdorf. Satisfaction en revanche du sénateur Robert Rowy et du député Emmanuel Tchibaou. Les deux parlementaires indépendantistes déclarent dans un communiqué commun qu'aujourd'hui est un grand jour. Pour eux, cette décision marque, et je cite, « une victoire morale, politique et humaine pour notre peuple et notre lutte ». Le FLNKS, de son côté, exprime sa grande satisfaction. Il estime que le combat judiciaire n'est pas terminé, mais que cette mise en liberté constitue une étape importante dans le traitement de la procédure. C'est ce que déclare Dominique Fauchy pour l'animation du bureau politique.
Tout d'abord, c'est une grande satisfaction, hein. Une étape importante dans la procédure judiciaire qui fait suite au dépaysement du dossier et à son traitement impartial. Donc voilà, grande satisfaction pour le président et tous les autres militants qui ont été remis en liberté. En tout cas, le travail judiciaire, il n'est pas fini, comme je disais, c'est une étape. Et on a une pensée aussi pour les autres militants qui sont encore derrière les barreaux, hein, que ce soit au pays ou bien encore en France. Le travail, il n'est pas fini. Christian Théin, c'est le président du FLNKS depuis le 43e congrès. Donc c'est lui le patron du FLNKS, puisqu'il est désormais en liberté. On va attendre ses directives. En tout cas, la motion du 40e congrès du FLNKS à Saint-Louis a souhaité sa participation aux négociations. Donc ça, c'est des choses qui ont été actées en congrès.
Le FLNKS ajoute que le combat politique se poursuit conformément à la convention du FLNKS qui s'est réunie samedi dernier à Dumbéa et qu'un prochain rendez-vous sera organisé pour examiner la situation et envisager les perspectives de la poursuite du dialogue dans un esprit apaisé et constructif. Réaction également sur X de Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, victoire, écrit le leader de la France insoumise. Les leaders kanaks emprisonnés à 17 000 km de chez eux sont enfin libérés. Christian Théin et ses camarades seront bientôt parmi nous. L'UGPE, satisfaite de la décision du tribunal administratif, l'Union des groupements de parents d'élèves réagissait ce matin à l'ordonnance rendue le 10 juin, Nicolas Legrand.
Oui, c'est ce texte de la province sud qui avait introduit une durée de résidence minimale de 10 ans en province sud pour être éligible aux bourses scolaires. Un dispositif pris au lendemain des émeutes par la province pour faire face à la baisse des recettes fiscales notamment. Depuis, l'UGPE a introduit de nombreux recours concernant des cas d'élèves qui n'étaient pas inscrits ou ne bénéficiaient pas des bourses et avaient notamment été déboutés par le même tribunal administratif le 17 avril dernier. Mais ce coup-ci, il s'agissait d'un référé suspension concernant la délibération. L'ordonnance du 10 juin enjoint donc la province sud de réexaminer la demande présentée par l'UGPE tentant à l'abrogation des dispositifs de la délibération. Bref, une suspension et non une abrogation, puisque le tribunal demande à la province juste de suspendre sa décision avant l'audience au fond et de se prononcer finalement sur ce fond du dossier. Écoutez Jean-François Toutiquian, le secrétaire de l'UGPE.
Alors dans l'immédiat, ça ne change rien. Dans un délai d'un mois, il faut vraiment que la province sud se mette à la page et puis suive ce que le tribunal lui a enjoint de faire. Il faut qu'on arrive à se mettre tous autour de la table, notamment les élus, et qu'ils rediscutent de cette délibération du 15 juillet 2024 qui n'apporte absolument rien, ni à la collectivité, ni aux familles. Enfin voilà, hein, c'est vraiment une délibération qu'il faut revoir. Maintenant, le tribunal administratif va devoir se positionner sur le fond du problème. Et bon, on a quand même bon espoir que les conclusions qui ont été dressées par le président du tribunal administratif soient suivies quand même par les trois juges.
Et on rappelle que la province sud va introduire un recours contre cette décision. Il s'agit d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. L'institution dispose maintenant de 15 jours pour le faire. Elle indiquait dans un communiqué que compte tenu de la persistance d'un contexte budgétaire comparable à celui qui avait justifié l'adoption de cette mesure, alors la province sud a décidé de faire appel de cette décision.
L'ISEE et l'INSEE étudient les premières données du recensement. Fin juillet, les instituts de statistiques vont dévoiler les premiers chiffres de la population, commune par commune. Ils vont pouvoir s'appuyer sur les questionnaires remplis par les agents recenseurs qui ont rendu visite à une très grande majorité de Calédoniens. Jean-Philippe Broutier est le chargé de mission de ce recensement pour l'INSEE.
Il y a 92% des foyers qui ont répondu en remplissant l'ensemble des questionnaires, 4% qui ont donné une partie des informations et 4% qu'on n'a pas pu joindre. Ces 4%, ce n'est pas que des refus. C'est des gens qui étaient absents toute la période, des gens qui, du fait de leurs horaires de travail, par exemple, étaient très difficiles à joindre. Donc l'agent censeur, même en passant 3 fois, 4 fois, 5 fois, n'a pas réussi à les contacter. Et puis, il y a quelques cas de refus. Mais je dirais que les pourcentages qu'on a sont plutôt dans la fourchette haute de ce qu'on observe dans les recensements, y compris en métropole. Vous vous souvenez, j'avais pris l'image du puzzle à 270 000 pièces. Ben, notre puzzle, il y a des chances qu'il donne une bonne réalité, parce qu'il n'y aura presque pas de trous.
Les chiffres de la population seront dévoilés au mois de juillet. Ensuite, les questionnaires seront traités plus finement et les publications des résultats vont s'étaler ensuite sur les années 2026 et 2027. Jean-Philippe Broutier, qui était notre invité ce matin à 7h30, interview à retrouver sur notre site internet.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion donc, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. L'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans vous semble-t-elle une mesure réaliste pour lutter contre la violence chez les jeunes? Si vous pensez que oui, vous tapez 1, si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier, 79% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils ne partagent pas l'analyse d'Emmanuel Macron quand il déclare que ni la culture pacifique, ni la culture océanienne ou mélanésienne ne sont totalement faites pour les référendums. Ils sont 21% à dire en revanche qu'ils partagent l'analyse du président de la République. Les faits divers en bref et une personne interpellée par la gendarmerie cette nuit à Tontouta. L'homme était retranché chez lui et menaçait sa famille avant que les gendarmes ne procèdent à son arrestation. Et puis une disparition inquiétante signalée par la gendarmerie qui lance un appel à témoins. Monsieur Coatané, un randonneur, a disparu ce mardi 10 juin dans le secteur des Kogi à Dembéa. Il pourrait s'agir d'un touriste en voyage sur le territoire. Les recherches n'ont pour l'instant rien donné et toute personne qui aurait des informations est invitée à contacter la police en composant le 17. Enfin, toujours en bref, au chapitre institutionnel, la commission permanente du Congrès s'est réunie ce matin. Les élus ont pris connaissance de deux rapports de la Chambre territoriale des comptes sur les établissements publics administratifs et d'un rapport sur leur activité 2023. Il est 11h41, la première pause dans ce journal. Dans un instant, le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Dimanche 15 juin, c'est la fête des pères. Pensez à réserver votre table dans le restaurant Le Fun au 28 67 08. Retrouvez les suggestions spéciales fête des pères sur la page Facebook Le Fun.
Parce qu'en matière de peinture, le choix et le service, c'est important. Bienvenue chez NBO Colors.
Plus de 500 mètres carrés de peinture professionnelle et accessoires. Des produits professionnels toujours disponibles. Un grand parking, une équipe d'experts peinture, des couleurs à la demande avec un choix illimité de teintes et un magasin ouvert en continu.
Alors à bientôt chez NBO Colors. L'univers de la peinture pour professionnels et particuliers. 4 rue Fulton à Ducos, 43 43 00.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
C'est aujourd'hui le dernier jour du rassemblement des jeunes à Ténée. Depuis lundi, plusieurs centaines d'entre eux sont réunis autour du thème de l'année jubilaire. L'espérance ne déçoit pas. Ils ont suivi des enseignements et participé à de nombreuses activités. Un premier bilan avec Cécilia Mafutuna. Elle est secrétaire du comité Marche pour Notre-Dame.
Un bilan très positif par rapport à la jeunesse que nous avons. Des jeunes qui sont très engagés, des jeunes motivés et des jeunes qui montrent qu'ils ont envie d'approfondir leur foi, d'approfondir leur connaissance en Jésus et connaître plus de choses par rapport à leur foi et à leur vie chrétienne. Toute la semaine, depuis mardi, ils ont débuté leurs activités et leur temps d'échange en carrefour. Alors le matin, ils sont répartis en mode carrefour. Donc les carrefours, c'est les petits groupes que nous avons créés et un petit groupe de 10 personnes maximum. Et à l'intérieur de ces groupes, ils partagent sur l'enseignement qu'ils ont le matin avec différents intervenants. Et l'après-midi, ils travaillent en mode Notre-Dame. C'est-à-dire ils ont 4 ateliers tournants l'après-midi, sont l'étude biblique 2.0, la préparation des messes et la procession du samedi. Et ils préparent également la veillée qu'ils doivent préparer le soir. Et la veillée, elle porte généralement sur le thème qu'ils ont eu le matin en enseignement avec l'intervenant.
Et le traditionnel pèlerinage aura lieu demain à partir de 7h. Il partira du lycée professionnel Père Guénaud. La grand-messe de clôture sera célébrée dimanche matin à 9h par le nouvel archevêque de Nouméa, Monseigneur Sionepo, et sur le site de Téné. L'actualité en Calédonie, c'est aussi ce chantier citoyen ce vendredi à Nouméa pour la production du littoral. Il s'est passé sur le parc urbain de Sainte-Marie, Léo Fichou.
Oui, dans le cadre du projet Kiwa Payback Plus, un projet régional qui vise à renforcer l'adaptation au changement climatique sur les écosystèmes dans les îles du Pacifique. Ce matin, plus de 500 plants de palétuvier ont été plantés au bord de la mangrove au parc urbain donc de Sainte-Marie. Une action concrète et participative pour enrichir la biodiversité, mais surtout pour lutter contre l'érosion du littoral. François Tron, coordinateur du projet Kiwa Payback Plus en Nouvelle-Calédonie.
On est en rive droite, donc vraiment au bord du parc urbain. On n'est pas du côté de mangrove. Côté parc urbain, on va planter, restaurer la végétation littorale, planter des petits plants, faire des semis directs pour contribuer à tenir la terre et lutter contre l'érosion du bord de mer dans un contexte donc de changement climatique et d'augmentation du niveau de la mer. C'est ce qu'on appelle donc les solutions fondées sur la nature, donc restaurer les écosystèmes, la nature. Ça va nous permettre de bénéficier des services qu'elle nous rend gratuitement, spontanément, sans même qu'on s'en rende compte. Par ses racines, la végétation va contribuer à tenir le sol. Donc sans végétation, la pente est nécessairement très faible, sinon ça s'érode. Avec de la végétation, on peut avoir une pente un peu plus forte et il y a moins d'érosion.
Une activité de démonstration qui vise à inspirer les décideurs et les citoyens pour mettre en place à leur échelle d'intervention les solutions pour lutter contre l'érosion du littoral. Ce matin, en plus des enfants inscrits à Sport Action, quelques amoureux de la nature ont répondu à l'appel des associations de protection de l'environnement.
Bien, en fait, c'est très simple. Hier, j'ai vu l'annonce sur Facebook et on était disponible ce matin. Je suis venu avec ma fille, c'était les vacances, donc du coup... On s'est dit pourquoi pas de venir donner un petit coup de main à planter les arbres.
Oui, je vais planter des arbres. Et oui, j'aime beaucoup planter des arbres, c'est pour embellir la nature.
Il y aura de l'érosion, mais si on peut le réduire et garder un peu notre littoral, peut-être pendant plus de 100 ans au moins.
Bon, on vient pour replanter un peu et puis entretenir le parc qui est joli et donc améliorer la végétation du parc avec mon neveu et ma nièce. Comme ça, ça leur montre un peu le bon geste.
Mais l'entretien de la mangrove continuera demain puisque ce sera la fête de la mangrove à Wemo. Calédocline donne notamment rendez-vous dès 8h pour une plantation de forêt sèche à Liliosong.
C'est toujours un casse-tête chaque année à l'approche de la fête des pères. Quel cadeau offrir à son papa? Passé l'âge des colliers de nouilles et des beaux dessins, il faut parfois redoubler de créativité pour trouver le bon cadeau. Heureusement, certains font toujours plaisir à coup sûr, Charlotte Coulson.
Le papa calédonien, c'est bien sûr le coup de chasse ou le coup de pêche. On est donc pratiquement sûr de trouver de quoi leur faire plaisir dans un magasin dédié à ces sports locaux, comme à Equinox, boutique de pêche à Nouméa, où travaille Nicolas Wazinski.
C'est des bons cadeaux, parce que bon, déjà, il y a beaucoup de papas qui font de la pêche, de la chasse en Calédonie, hein, c'est connu. Là, en ce moment, on a une réduction un petit peu sur certains modèles en fusil, sur des combinaisons. Donc, le côté plonge, après, on propose un petit peu tout le classique, hein, canne à pêche, filet, épervier, de la glacière, du grand chouadeleur, bien sûr. Il y a vraiment tout ce qui accompagne la pêche, quoi. Donc, après, que ce soit de la plonge, de la canne à pêche, de la plaisance, on peut satisfaire tout le monde. On peut faire du bon d'achat également, voilà, donc si on ne sait pas trop quoi choisir, si on n'est pas sûr de son choix, un bon d'achat, ça fait toujours plaisir. Et au moins, la personne concernée passe et elle prendra ce qu'il ou elle cherche.
Et puis, il y a bien sûr les quincailleries, véritable mine d'or pour les papas bricoleurs. Couteaux, perceuses ou tondeuses, il y en a pour tous les budgets. Comme chaque année, la quincaillerie calédonienne à Ducos prévoit des soldes spécialement pour la fête des pères. Marine Gachet est responsable communication à la quincaillerie calédonienne.
Vu le nombre de produits qu'on a, vu qu'on a 40 000 produits en magasin, a priori, papa devrait trouver quelque chose qui lui plaît. Il y a du matériel électroportatif, par exemple de la marque Bosch, qui peut être un cadeau sympa pour les papas bricoleurs. Il y a des nettoyeurs haute pression qui peuvent fonctionner pour nettoyer un jardin, une voiture de la marque Inco. Il y a une perceuse meuleuse qui peut être super pour un papa qui aime bricoler à la maison. Et en fait, tous ces produits-là sont en promotion à l'occasion de la fête des pères. Il y a plein d'idées cadeaux qui sont en promo ou non. Il y a aussi des petits accessoires tels que des couteaux ou ce genre de choses qui peuvent faire plaisir à papa.
Et puis un cadeau qui fait toujours plaisir, c'est aussi un bon parfum. Marion Abbeau est parfumeuse et créatrice de la marque Vivre un instant parfumé dans la galerie Port Plaisance. Elle a développé toute une gamme de parfums aux senteurs ambrées, boisées, fruitées et surtout locales.
Ça fait toujours plaisir d'offrir un parfum pour son papa parce qu'on aime bien qu'il sente bon. La mémoire olfactive, c'est vraiment le premier sens que le bébé développe à la sortie du ventre. Donc même dès le plus jeune âge, on va vraiment développer le sens de l'olfaction. Donc forcément, l'odeur du papa, c'est tout, quoi. On a donc une eau fraîche, deux eaux de toilette. Après, on a de l'eau de parfum et on a également des après-rasages. J'ai quand même axé mes créations sur l'esprit calédonien. Je vais même jusqu'à employer des lieux-dits. Je peux aussi mettre mes créations en action tout autour d'un élément calédonien. Terre de nickel, j'ai Mondawa, j'ai Goéland, j'ai Native qui évoque vraiment le lagon calédonien. Vraiment, je retranscris en odeur l'identité du pays. Je réalise également la prestation sur mesure. Donc la prestation va se dérouler sur 3 mois. On est vraiment sur un parfum de signature qui est exclusivement dédié aux clients. Si vous souhaitez offrir un parfum personnalisé, vous pouvez venir et on délivre un bon pour une prestation sur mesure.
Et enfin, la fête des pères, c'est surtout l'occasion de passer un moment en famille. Et pour ça, rien de mieux qu'un bon repas. Les tables du Rouf à Nouméa sont prêtes à accueillir les familles autour de plats qui donnent l'eau à la bouche, cuisinés par les équipes de Pierre Domergue, le directeur du restaurant.
Souvent, les familles choisissent le restaurant parce que c'est convivial, ça fait profiter plusieurs personnes. Ça peut être le moyen de faire un beau cadeau à son papa, de passer un moment en famille. Parce que finalement, bon, la fête des pères, l'esprit, c'est quand même d'être en famille. On a fait une mini-carte surtout. Par exemple, en entrée, on a gardé les crevettes croustillantes à la menthe fraîche avec la sauce mangue, qui est un incontournable de notre restaurant. On a aussi mis tartare de thon et tartare de bœuf. Pour les viandes, on est resté sur des classiques comme le cœur de noix d'entrecôte ou le filet de bœuf, mais aussi le croustillant d'agneau qu'on a l'habitude de faire aussi au restaurant. N'hésitez pas à appeler sur notre numéro 25 07 00 et puis je me ferai un plaisir de garder une place pour votre famille.
Et le restaurant sera bien sûr ouvert ce dimanche et pour les autres boutiques, n'attendez pas le dernier moment car leurs portes seront fermées le jour de la fête des pères.
11h50, une nouvelle pause dans ce journal et on se retrouve pour évoquer l'actualité en métropole, dans le monde et dans la région Pacifique.
RRB 11h 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
On commence vraiment à sentir la fraîcheur du matin et du soir, pas vous? Alors si, comme ma famille, vous avez besoin de vêtements chauds à petit prix, Gémeaux propose jusqu'au 22 juin la suite de sa collection hiver avec encore plus de nouveautés, sans oublier les idées cadeaux pour la fête des pères.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46.
Le départ de la Groupama Race, c'est le dimanche 15 juin au Rocher à la Voile. 25 bateaux dont 6 équipages étrangers sur la ligne de départ pour faire le tour de la Nouvelle-Calédonie avec une seule ambition, la victoire. Du 13 au 21 juin, rendez-vous au village de la course à l'école de voile du CNC, derrière la galerie Port Plaisance. Des animations, des initiations gratuites et des jeux tous les jours. Le programme complet est sur groupamarace.nc ou sur Facebook. Un événement CNC Groupama Pacifique avec la BCI, Sud Tourisme, Air Calin et Replay.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Mag, on retrouve Jean-François Baudin.
L'actualité en métropole et le collège Françoise Dolto à Nogent dans l'Aisne a rouvert ses portes. Les élèves et la communauté éducative restent très affectés par le meurtre d'une surveillante de 31 ans tuée à coups de couteau par un jeune de 14 ans il y a deux jours. Une marche blanche sera organisée demain dans les rues de la ville. Un drame qui repose la question de l'extrême violence chez les jeunes. Et la question a été évoquée par le président de la République lors du Conseil des ministres. Emmanuel Macron s'est dit inquiet d'une désinhibition de la violence dans la société, un ton radicalement différent de celui de la semaine dernière lorsqu'il parlait des faits divers. Maïlène Trémollet pour Europe 1.
Il avait accusé ses adversaires politiques de laver le cerveau des Français et de provoquer une surenchère sécuritaire et judiciaire, le tout à la veille du drame de Nogent, avant d'être accablé par l'aile droite de l'échiquier politique qui crie au déni. Emmanuel Macron s'est exprimé ce matin devant l'ensemble du gouvernement pour redire son émotion après le décès de Mélanie, tuée d'un coup de couteau lors d'une fouille des sacs.
Ce Conseil des ministres a été marqué par une intervention du président de la République pour évoquer son émotion à la suite des événements de Nogent. Parler de ce drame de Nogent comme d'une montée, une désinhibition de la violence dans notre pays pour laquelle il va falloir apporter des solutions.
Le président veut désormais un travail au long terme, loin des solutions magiques, mais qui s'attaquerait, je cite, à toutes les causes dans leur diversité, à commencer par les réseaux sociaux. Emmanuel Macron s'est d'ores et déjà emparé du sujet. Il s'est engagé mardi à interdire les plateformes numériques aux moins de 15 ans, les accusant d'être responsables, je cite, d'une épidémie de violence.
À l'étranger, une catastrophe aérienne de grande ampleur en Inde. Un Boeing 787 Dreamliner de la compagnie Air India s'est écrasé quelques secondes après son décollage de l'aéroport d'Ahmedabad dans l'ouest du pays. Il devait rallier Londres avec à son bord 230 passagers et 11 membres d'équipage. L'avion s'est écrasé sur une zone résidentielle, notamment sur un dortoir de l'internat d'une faculté de médecine. Un seul passager a survécu miraculeusement, un Britannique de 40 ans qui n'est que légèrement blessé. Le bilan exact n'est pas connu, mais aucun autre passager n'a survécu et les secours fouillent les décombres de la zone où l'avion s'est écrasé. On parle à l'heure actuelle d'au moins 290 victimes. Les causes du crash ne sont pas encore connues, mais une enquête est évidemment en cours. Écoutez Jean-Paul Troadec, c'est l'ancien président du Bureau d'études et analyses pour la sécurité de l'aviation civile.
L'enquête va être menée par les autorités indiennes qui vont s'appuyer sur des experts de Boeing. On va avoir accès, bien sûr, à tout l'enregistrement des boîtes noires de l'avion, mais également tous les autres enregistrements, puisque l'avion était en contact avec l'aéroport. Donc, il y a eu des échanges entre les pilotes et puis les contrôleurs aériens.
Jean-Paul Troadec, pardon, qui s'occupe donc, qui est l'ancien directeur du Bureau études et analyses de l'aviation civile. Toujours à l'étranger, l'inquiétude monte encore d'un cran sur le nucléaire iranien. Téhéran a annoncé la construction d'un nouveau site d'enrichissement d'uranium et une augmentation significative de production d'uranium enrichi. Dernière étape probable vers l'obtention de l'arme atomique. Washington affirme qu'un accord est possible avec Téhéran, une façon de calmer les ardeurs d'Israël qui n'entend pas laisser le régime des Mollahs disposer de la bombe atomique et qui pourrait attaquer l'Iran. Si c'est le cas, ce pourrait être une attaque massive, estime David Rigoulet-Rose. Il est chercheur et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique.
S'il y a une opération, elle sera majeure. Ça fait des années qu'Israël se prépare éventuellement à frapper. Effectivement, ses préparatifs militaires se sont accélérés ces dernières semaines. C'est incontestable. Mais on voit bien qu'avec le blocage qui apparaît de plus en plus manifeste, la possibilité de ce scénario prend corps. Donald Trump voudrait obtenir un accord, il l'a dit depuis le début. Il ne souhaite pas lancer une opération militaire, il voudrait en faire l'économie. Mais en même temps, la barre a été mise tellement haut maintenant, de manière très explicite, en l'occurrence, la nécessité du point de vue américain, ce qui n'était pas le cas au début, hein, c'était pas aussi clair, d'un démantèlement de la filière de l'enrichissement en Iran, qu'on voit pas très bien comment les Iraniens seraient susceptibles d'accepter ce qui est perçu de Téhéran comme un diktat. Et donc les deux trains sont en train d'approcher d'une prochaine rencontre.
David Rigoulero, chercheur et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. L'actualité dans la région et l'Australie va accueillir les premiers réfugiés climatiques en provenance de Tuvalu. L'archipel compte 11 000 habitants et il est menacé par la montée des eaux. Une partie de ces habitants a donc été autorisée à s'installer en Australie dans le cadre d'un accord mobilité. Jean-Pierre Zajac.
Cet accord historique permettra à 280 Tuvaluans de s'installer, vivre, étudier et travailler en Australie. Ils seront sélectionnés par un tirage au sort qui aura lieu chaque année à partir de lundi prochain, ce qui leur permettra de ne pas devenir les victimes du relèvement du niveau de la mer qui menace progressivement leur archipel constitué d'atolls quasiment à fleur d'eau. En plus de cet arrangement humanitaire, l'Australie a prévu d'investir une somme proche des 3 milliards 200 millions de nos francs ces deux prochaines années dans des projets d'adaptation au changement climatique, de télécommunications, d'infrastructures, d'éducation et de santé au Tuvalu. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
À 11h57, la dernière pause de ce journal avant de parler sport et ensuite ce sera le magazine citoyen.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Jusqu'au 15 juin, célébrons la fête des pères comme il se doit et craquez pour le barbecue Titan à 49 990 francs seulement. Produits d'aménagement, barbecue, piscine ou encore végétaux, vous trouverez à coup sûr le cadeau idéal pour lui faire plaisir. Avec Jardiland Nouvelle-Calédonie, vos économies commencent ici. Jardiland. Cultivez votre bien-être.
Le prochain rendez-vous des aidants se tiendra le lundi 16 juin dans la salle d'honneur de la mairie de Nouméa. Le Lions Club et le CCAS vous attendent à partir de 17h30 pour un moment d'échange sur le thème « Je t'ai connu, mais je ne te reconnais plus », animé par une psychologue clinicienne. Si vous êtes aidant, venez trouver du soutien.
Chers amis golfeurs, The Amateur Golf World Cup est de retour et s'appelle désormais la Soma Bay World Cup. Alors vous aussi, tentez votre chance pour représenter la Nouvelle-Calédonie en Égypte. Prochaine qualification de la Soma Bay World Cup, le samedi 14 juin en formule Stableford au golf de Deva. Inscription par téléphone à Deva au 20 70 16.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et on va commencer avec le cyclisme et la victoire de Jake Stewart sur la cinquième étape du critérium du Dauphiné, Léo.
Oui, le Britannique s'est imposé au sprint, il a devancé le Français Axel Laurence. Malgré une chute dans le dernier kilomètre, Remco Evenepoel a pu rallier l'arrivée, il conserve son maillot jaune de leader. Pas de changement donc au classement général, le Belge possède toujours 4 secondes d'avance sur Florian Lipovitz. Le premier Français, Louis Barré, est 9e à plus d'une minute du leader. Ce soir, 6e étape accidentée, 127 km avec 5 cols classés au programme.
En métropole, toujours un Calédonien brille cette saison sur les circuits de motocross. Arnaud Colson a remporté ces derniers jours la Coupe de France nationale 250 cm3. Il n'a laissé aucune chance à la concurrence puisqu'il a été sacré avant même la dernière épreuve du championnat prévue à la fin du mois. C'est son premier titre de champion de France. Du handball et une nouvelle victoire calédonienne, et une nouvelle calédonienne pardon, qui intègre un club national de l'élite. Juliana Munaona s'est engagée ces dernières heures avec le Toulon Métropole Var Handball. Et puis bientôt le top départ pour la 8e édition de la Groupama Race. Après plusieurs mois de préparation, 140 marins vont prendre la mer ce dimanche matin. Moins de 3 jours avant le départ, l'excitation monte, surtout après l'inauguration hier du village qui marque l'ouverture des festivités, Charlotte.
Participation record cette année. 23 navires partiront du Rocher à la Voile de Nouméa ce dimanche pour réaliser un tour de la Nouvelle-Calédonie. 31 femmes et 109 hommes, français, australiens ou néo-zélandais, attendent ce moment avec impatience, notamment car la course de l'année dernière avait été annulée à la dernière minute. C'est aussi ce qui rend cette édition importante, selon Jean-Michel Calba, le directeur général de Groupama Gun Pacific.
C'est vrai qu'on s'est posé la question avec le cercle nautique calédonien, puisque sorti des émeutes, on avait quand même un peu la tête à autre chose. Et on s'est dit, la Calédonie aujourd'hui ne montre pas la plus belle image qui soit aux yeux du monde. Et on s'est dit, il y a l'enthousiasme des marins, et les Calédoniens vont avoir besoin de se rassembler, vont avoir besoin aussi de penser à autre chose et vont avoir besoin d'avoir des signaux où la vie doit continuer. Et donc, on s'est dit, eh bien, on va quand même essayer de la faire. On est content parce qu'au global, on a 23 bateaux engagés. Et c'est un record, c'est très très bien, ça montre que l'édition était très attendue et que cette course représente un bol d'air pour tout le monde.
La Groupama Race, c'est avant tout une course sportive, mais c'est aussi une semaine de festivités qui a débuté hier soir lors de la soirée d'ouverture du village de la Groupama Race. Il a ouvert ses portes au public ce matin à l'école de voile du CNC, derrière la galerie Port-Plaisance. Sur place, de nombreux stands et animations autour du monde nautique. Rendez-vous donc derrière la galerie Port-Plaisance au niveau de l'école du voile du CNC et pour découvrir le village de la Groupama Race et le salon nautical qui se tient lui juste à côté au parc Brunelet jusqu'à 18h.
Cela faisait 26 ans qu'Axel Raymond attendait cela. Le Calédonien remportait le week-end dernier la médaille d'or au championnat de France Master de force athlétique. Il était engagé dans la catégorie des moins de 93 kilos. Et pour décrocher cette victoire, le licencié du club Tagalo Hajima Dembea a soulevé 732,5 kg après trois mouvements. Une victoire personnelle pour Axel Raymond, mais surtout pour la Calédonie tout entière, se réjouit-il.
Je suis encore sur le nuage. Ça fait depuis que j'ai l'âge de 15 ans que je veux être champion de France. J'ai toujours loupé le coche, que ce soit au taekwondo, que ce soit en athlétisme. Et puis enfin, aujourd'hui, ben, je ramène la médaille d'or au pays. C'est juste énorme et génial. C'est la médaille, non seulement ma médaille à moi, mais c'est surtout la médaille du pays. Parce que lorsque l'on part en championnat, je représente mon club Tagalo Hajima Dembea, mais on représente surtout un pays et la Nouvelle-Calédonie. Et faire briller la Nouvelle-Calédonie au niveau national, c'est juste magique. Il y a de plus en plus de personnes qui me félicitent. Je trouve ça génial. J'ai reçu un message de la quadruple championne d'Europe et double championne du monde, Noémie Alabert. Et derrière ça, avoir des Laurent Ganet, des Diane Buduyer qui me félicitent, je ne peux pas être plus dans les étoiles, en fait.
Et en plus de cette première place, Axel Raymond a décroché la médaille d'argent, toutes catégories confondues. Une manière de s'imposer un peu plus sur la scène nationale de la force athlétique. Pourtant, il a fallu surmonter de nombreuses difficultés, à commencer par un manque de financement. Le Calédonien s'est rendu au championnat de France à Loos, dans le nord de la métropole, sur ses fronts propres, faute de sponsors. Après ses dernières performances, il espère signer quelques partenariats.
C'est une charge mentale supplémentaire, en fait. Surtout, c'est l'argent du foyer. Et on est obligé de faire avec. On n'arrive pas à avoir de finances. C'est comme ça. Après les résultats des championnats de France, j'espère que les résultats seront entendus et puis que des mécénats ou bien que le territoire se penchera sur le cas, parce qu'il n'y a pas que moi. Il y a énormément d'athlètes qui sont dans cette situation-là. Et j'espère que mes résultats et les résultats d'autres pourront donner envie aussi aux mécénats et à notre pays d'aider des athlètes pour pouvoir continuer à évoluer, à performer et surtout avoir autre chose. Je pense que c'est la principale source.
La prochaine étape pour Axel Raymond, les championnats du monde Masters qui se dérouleront en octobre prochain. Il est donc déjà qualifié alors que l'an dernier, il n'avait pu y participer que grâce à un repêchage.